intervenant pour DAVA, qui organise chaque année des sessions exceptionnelles qui durent une semaine et qui témoignent aussi de la volonté d'étudier entre juifs et chrétiens. Je dis juste un tout petit mot sur l'amitié judéo-chrétienne, parce que tout à l'heure, une personne qui vient pour la première fois, vous êtes venu pour la première fois, vous aussi, m'a demandé quand a été créée l'amitié judéo-chrétienne, l'histoire, etc. Alors tout est sur le site, mais je lis juste l'objet de l'amitié judéo-chrétienne, faire en sorte qu'entre judaïsme et christianisme, la connaissance, la compréhension, le respect et l'amitié se substituent aux malentendus séculaires et aux traditions d'hostilité. Alors ce soir, nous allons parler des Lumières. Pourquoi les Lumières? Vous avez peut-être remarqué dans le calendrier que cette année, par hasard, Noël est... Et le premier soir de Hanouka tombe la même date. Et voilà, donc l'idée ce soir est d'aborder trois axes. Pourquoi nous allumons des lumières? Pourquoi par exemple les bougies de l'Avent? Pourquoi les bougies de Hanouka? On peut parler aussi d'autres bougies qu'on allume dans les différentes traditions et d'autres veilleuses, notamment pour les défunts, etc. Après, on peut parler au sens plus figuratif, abstrait, être lumière pour les autres, pour le monde, à travers sa tradition. Et également évoquer quelques textes qui parlent des Lumières. Voilà, peut-être que le père Antoine Guglielm peut commencer. Et puis, il y aura bien sûr un temps pour les questions par la suite.
Le père Antoine Guglielm doit partir à 20h.
Ah, voilà.
Si vous avez des questions à lui poser, ce sera avant 20h.
Ah, mais on aura fini bien avant, nous.
Oui,
n'est-ce pas? Donc, le sens des bougies... Alors je pense que la première, la plus importante qui est dans le christianisme, même si on n'y pense pas beaucoup, c'est celle qui, dans la symbolique ancienne, se trouve près du tabernacle. Parce que, comme dans la tente du désert, dans les églises chrétiennes, il y a un tabernacle. C'est un lieu de la présence de Dieu, de la rencontre avec Dieu. Bien sûr qu'on peut inscrire, on peut faire toute une théologie pour inscrire ce tabernacle dans l'histoire de l'Exode, dans l'histoire de la réforme deutéronomique, c'est-à-dire du retour à un seul sanctuaire, le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom, dit le prophète Ézéchiel pour le coup. Donc c'est là où l'on garde pour le porter aux malades le pain de Jésus, le pain de la messe, le pain de vie, et qui est comme un pôle qui à jamais rend les églises moins drôles que les synagogues, c'est-à-dire pas un lieu de bavardage, d'échange, de discussion, même si c'est plutôt normalement pas dans la salle de prière, mais dans la salle d'études qu'on parle. Dans les églises, on est souvent frappé par le silence, on perçoit soit comme une donnée positive de recueillement, soit comme quelque chose qui évoque... la mort, le calme. Quand je vois des parents dire à des enfants qui courent dans une église « Tais-toi, fais silence », ça me fait toujours un peu peur. Mais toujours est-il qu'à côté de ce tabernacle, il y a une lampe perpétuelle qui, dans notre imaginaire profond, évoque bien sûr la lumière perpétuelle à l'orée du Saint des Saints. Et la deuxième lumière de bougie, elle aussi, en tout cas aujourd'hui c'est des bougies, en Italie si vous y allez... Pour ne pas abîmer les églises, c'est des lampes électriques. Évidemment, ça fume moins, théoriquement. C'est celle qu'on utilise au cours d'une célébration où l'évangile est lu. L'évangile n'est jamais lu sans qu'on ajoute une lumière de plus à celles qui sont dans la célébration, qui peut venir même entourer le lecteur, celui qui proclame, qui dit la parole, qui fait passer de l'écrit à la parole. Et cette lumière est un signe de, soit de la joie de l'évangile, soit du respect pour l'évangile, ce que vous voulez. Ceux qui connaissent le culte de la synagogue peuvent comparer, s'ils le veulent, à la sortie des rouleaux de la Torah, qui est l'occasion de manifester sa joie pour la parole de Dieu qui s'est faite proche. Elle n'est pas loin de toi, cette parole, elle est dans ton cœur. En tout cas, ce à quoi invite le Deutéronome. Après, il y a des moments de l'année, et j'ai trouvé deux fêtes particulières où les bougies ont un sens lié au calendrier, donc lié à un moment de l'histoire. C'est bien sûr les quatre semaines où nous sommes avant Noël, qu'on appelle l'Avent, mais A-V-E-N-T, même si elle se situe aussi avant, A-V-A-N-T, Noël. C'était le raccourcissement, la francisation d'un mot latin, adventus, celui qui vient. Celui qui vient. C'est le temps où on concentre son esprit dans la prière, non pas vers ce qui est déjà a été donné, non pas vers ce que l'on vit, mais vers ce qui polarise et habite déjà et le passé et le présent. C'est la venue de l'Éternel qui vient de son éternité, c'est d'ailleurs de l'avenir, radicalement de l'avenir, de ce qu'il n'a pas encore donné et qui est pourtant déjà espéré. Et là, on accroît la lumière chaque semaine. Donc c'est une tradition très locale, je pense qu'elle est originaire de l'est de la France, du nord de la France, on pourrait dire de l'ouest de l'Allemagne et du sud de la Belgique si on était un peu moins franco-français. C'est une tradition de la couronne évoque, comme nous sommes français, tous les peuples sont un peu centrés sur eux-mêmes, c'est quelquefois le problème. La couronne, elle est ronde, en signe de l'éternité. Les quatre bougies marquent la progression dans le temps, qui est notre chemin à nous. Notre manière de participer à l'éternité, c'est de laisser celui qui vient de Dieu apporter de la lumière de plus en plus. Donc on peut aussi, là aussi, faire une comparaison, mais qui n'a pas de lien historique, mais une comparaison symbolique, parce que les symboles, il n'y en a pas des milliards et des milliards. Donc les religions qui adorent les symboles s'en emparent et les utilisent sans forcément qu'il y ait d'influence, avec la lumière croissante de Hanouka dans certaines traditions juives, où on allume de plus en plus, dans d'autres traditions, on allume de moins en moins, mais chacun... Et il y a une deuxième grande fête qui porte même le nom de lumière, mais vous la connaissez sous un autre nom, qui est chandeleur. Donc la chandeleur, ce n'est pas la fête des crêpes, même si c'est très bien de faire des crêpes à la chandeleur, c'est une fête de la lumière en raison d'un texte que je lirai tout à l'heure dans une autre reprise, puisque notre rencontre se fait en trois parties. Les bougies, qu'est-ce que ça veut dire être lumière dans un sens éthique, et puis quels sont les textes sur lesquels cela se fonde. Donc la chandeleur, il y a une procession avec des cierges et même une bénédiction de cierges qui est assez rare. On demande à Dieu de bénir ce qu'on a apporté. Je peux tout de suite vous lire ces paroles. Le cœur de cette prière. Maintenant, nous te connaissons... Non, c'est pas celle-là. Bénédiction des cierges. Dieu qui est la source et l'origine de toute lumière, toi qui es montré au vieillard Siméon la lumière qui éclaire les nations, nous te supplions humblement que ta bénédiction sanctifie ces cierges, exauce la prière de ton peuple qui est ici rassemblé pour les recevoir et les porter à la louange de ton nom. Et les gens, très pieusement, souvent rapportent ce cierge à la maison. L'Allemagne, l'église d'Allemagne, qui est une église à la fois hyper traditionnaliste et hyper moderne, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, toujours au bord du schisme avec l'église catholique, etc. L'église d'Allemagne, le lendemain, en fait, Saint Blaise, alors Saint Blaise n'est pas le saint le plus connu, mais là, il y a un rite auquel j'ai assisté pendant un semestre que je passais à Francfort, sur le Main. Le prêtre croise comme ça deux cierges de la veille, et vous venez mettre votre gorge au-dessus, attention, pour être protégé des maux de gorge. Et ceci se fait dans une célébration, non pas à côté chez le rabbin quand on peut apporter ses amulettes, mais dans l'église, très officiellement. À part l'Allemagne, je l'ai vu faire nulle part. Mais c'est pour vous dire qu'on peut faire... Alors maintenant, sur la vie humaine, dans la vie humaine, il y a deux moments où on allume des cierges, dans le rite catholique en particulier. Chez les protestants, j'en vois pas beaucoup, mais c'est quelquefois ils se baptisent, c'est par réaction, je ne vois pas s'ils s'opposeraient à ça. Mais c'est le baptême, où on remet aux nouveaux baptisés, bébés, adultes, adolescents, comme vous voulez, un grand cierge allumé, qui signifie le don de la foi. Alors qu'est-ce que la foi, vous allez me dire, j'en sais rien. Mais ici, ce qui est signifié, c'est que la foi est une lumière fragile qui peut éclairer les pas. La parole est la lumière de mes pas. C'est peut-être un écho lointain du psaume 119. Et c'est une lumière qui diminue sans arrêt en consommant une énergie. Voilà. Donc c'est aussi le signe d'un engagement. S'il n'y a plus de cire, il n'y a plus de cierge. Et un cierge allumé, c'est plus gai qu'un cierge éteint. Ce cierge du baptême, et il y a ce qui est dans la haute pensée chrétienne, c'est souvent galvaudé bien sûr, comme un deuxième baptême, c'est la mort. pour lequel il y a un sacrement qu'on appelle la deuxième onction, en latin l'extrême onction. Donc dans tous les romans et films, vous avez le médecin qui sort de la maison et il dit à l'épouse éplorée, maintenant vous pouvez appeler le prêtre. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à foutre. Et on allume des cierges. Alors évidemment, ça évoque tout de suite, ça porte malheur d'allumer un cierge près d'un malade. Par exemple, tout le monde sait ça, évidemment, il ne faut pas. Mais ce cierge signifie que ce qui a été donné au baptême est le gage de la traversée de ce passage terrifiant et singulier que l'on fait avec Dieu seul, parce que lui seul passe d'un côté à l'autre, la mort. Après, dans les églises, quand vous y entrez, il y a un autre sens du cierge qui est le plus évident. Ce sont les cierges qu'on allume comme ça à l'occasion. Là aussi, les Allemands très désireux de Gemütlichkeit, de confort, etc. Vous êtes invité à un apéritif où ils vont allumer une bougie parce que le cierge est le signe d'une présence et d'une prière. Voilà. Alors dans toutes les églises, vous voyez ça, il y a un don, c'est pas du commerce, mais pas loin quand même. Donc c'est sans TVA, mais donc l'État surveille un petit peu. Il y a une espèce de tolérance pour cette chose. Dans les revenus d'une paroisse, et comme vous êtes au bord d'une paroisse, c'est bien de le savoir, ça fait partie de quand même ce qui permet de payer le chauffage, etc. Tant qu'elle brûle, la prière accompagne. C'est-à-dire vous vous allumez, vous priez, vous partez, mais la bougie continue à prier, si j'ose dire. C'est extrêmement concret, extrêmement populaire. C'est une piété très populaire. Mais pour le coup, évidemment, quand vous entrez dans une église et que vous voyez 100, 200, 300 bougies brûlées, il y a un petit choc émotif. C'est une présence et une prière. Présence qu'on peut vouloir lier à plusieurs. Voilà ce qui me semble être l'ensemble des raisons pour lesquelles on allume des bougies chez nous.
Pascal, j'ai pas dit. Dans le judaïsme, d'abord il y a ce que vous avez évoqué, il y a des choses qui se ressemblent, des choses qui se ressemblent moins. Il y a le ner tamid, c'est-à-dire la lumière perpétuelle, hein, éternelle, qui a été évoquée dans les églises. Vous avez la même chose dans les synagogues. Est-ce qu'elle est toujours allumée? Bon, ça, c'est un autre problème. De nos jours, c'est les petites veilleuses électriques. Ça, c'est facile. Avant, c'était peut-être plus compliqué. Mais il y a cette idée de lumière permanente, qui est la même chose, et qui, en fait, reprend ça du temple, comme ça a été évoqué tout à l'heure. D'accord? Donc, tout le monde connaît le symbole de l'État d'Israël, du judaïsme de façon générale, c'est la menorah et pas l'étoile, contrairement à ce que les gens pensent. L'étoile de David est un symbole tardif, relativement. La menorah, donc le chandelier à sept branches, est le véritable symbole du judaïsme. Par exemple, quand on découvre des vieilles mosaïques en faisant des fouilles archéologiques, dans certaines contrées, on hésite, est-ce que c'est une église, une synagogue, c'est pas toujours très clair. Je parle des choses qui datent du 3e, 4e siècle, 5e siècle. Donc voilà, si on y a une menorah, c'est que c'est une synagogue a priori, c'est pas une église. D'accord? C'est vraiment le symbole, la menorah du judaïsme. Et c'est d'ailleurs le symbole de l'État d'Israël, sur l'écusson de l'État d'Israël, l'écusson officiel, il y a la menorah. Et donc, c'est une lampe. C'est une lampe qui, on a évoqué bougie. La bougie, c'est une invention un peu tardive. Hein. C'est pas, je vous signale ça, parce que dans des films un peu qui se veulent dans l'Antiquité, tout le monde, il y a des bougies partout. C'est un peu pipeau parce que la bougie n'était pas tout à fait courante dans l'ancien temps, en fait. On s'éclairait avec des lampes à huile et pas avec des bougies. Bon, ben bon. Je dis ça parce que souvent dans des films, on voit des bougies partout. Dans ce genre de... Mais là, donc il y avait des lampes à huile. Mais la menorah, c'est une lampe très particulière parce qu'elle est dans le temple et seulement dans le temple. Et elle n'éclaire rien du tout parce qu'il n'y a personne dans le temple. C'est purement symbolique en fait. Enfin, elle éclaire quand même. Mais elle ne sert pas à éclairer une salle où on se réunit. Les gens imaginent le temple, je parle, là il y a le Saint des Saints, alors là on n'y va quasiment jamais, Et il y a le Kraal juste devant, et là, on y va très très peu, en fait. Tous les jours, le Kohen venait allumer cette menorah, etc. Mais c'est pas fréquenté par le public, qui en fait ne le voyait quasiment pas. Donc c'est quelque chose d'un peu caché, si vous voulez, qui amène d'ailleurs un concept de lumière cachée, mais j'en parlerai peut-être après ça, de Organouz, qui est un concept très important dans le judaïsme. Donc ça, c'est l'objet principal, sauf que cet objet n'existe plus, puisqu'il a été pillé par bien des fois, d'ailleurs, à plusieurs reprises, et reconstruit, refait. Mais il était pillé pour la dernière fois par les Romains et emmené à Rome. Vous avez tous vu la reproduction de l'arc de Titus qui existe toujours sur le forum, où il y a cette menorah qui est portée en triomphe par les Romains. Je vous signale qu'il y a une excellente nouvelle, hein, qui est du roman, mais de Stefan Zweig, qui s'appelle « Le chandelier enterré ». Très joli petit livre, nouvelle de Stefan Zweig, qui imagine le devenir de ce chandelier. En tout cas, ça c'est pour la menorah. Donc, contrairement à un cliché qui existe peut-être dans la tête de certains, les Juifs n'ont pas de menorah chez eux. Voilà, je vous surprends, vous voyez. Donc, c'est interdit. C'est interdit, on n'a pas le droit de reproduire cette menorah. En judaïsme, on n'a pas le droit de reproduire le temple, on n'a pas le droit de le reproduire. Ce serait considéré comme une forme de désacralisation, si vous voulez. On n'a pas le droit d'imiter. Comme on n'a pas le droit d'imiter l'encens, ni le parfum, ni tout. Donc, la menorah, on n'en a pas chez soi, normalement. Alors, je dis ça parce que c'est un cliché. Souvent, les gens croient que les Juifs ont une menorah chez eux. C'est complètement faux. Pareil, dans certains films, on voit des Juifs avec une menorah chez eux. Alors, on sait qu'on est chez des Juifs. C'est faux, ça ne marche pas. Maintenant, il y a peut-être des Juifs qui en ont, hein, si ça les regarde, mais c'est la preuve que c'est des Juifs qui connaissent mal. Alors que en franc-maçonnerie, c'est utilisé. C'est même un symbole très important de la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie se base sur la mystique du temple, les symboles du temple, mais pas le judaïsme. Et les synagogues ne sont pas construites à l'imitation du temple du tout. Donc c'est contrairement à certaines églises qui reprennent dans leur architecture, notamment chez les orthodoxes, les chrétiens orthodoxes, la question du temple. Donc la menorah, c'est un objet qui a existé, qui n'existe plus, chose dans la nouvelle de Stefan Zweig, où il est enterré, et qui ne peut pas être reproduit, même s'il a été reproduit de façon symbolique, par des sculpteurs modernes, ça. Bon. Alors évidemment, puisque j'ai parlé de la menorah, j'enclenche immédiatement sur la Hanoukia, parce que vous en avez une là, une chandelier à 8 branches, et pas à 7 branches, qui elle, c'est un objet inventé au Moyen-Âge, pour la fête de Hanouka. Mais la fête de Hanouka, à l'origine, il n'y a pas de Hanoukia. À l'origine, c'est juste des petites lampes à huile qu'on mettait, et c'est une fête de la lumière. Donc je vais y revenir. Mais la Hanoukia, qui est l'objet qui est là, voilà, eh bien, c'est une. Évidemment, ça reprend la menorah, mais sauf qu'elle a 8 branches, donc c'est pas une reproduction. Vous voyez ? Pourquoi est-ce que la fête de Hanouka, on allume pendant 8 jours, chaque jour une lumière en plus. Et voilà. Alors, je vais revenir sur Hanouka après, parce que la question des bougies, des lampes dans le judaïsme, le vrai symbole fort, c'est les bougies de Shabbat. Là, je crois que tout le monde connaît, c'est que pour Shabbat, à l'entrée du Shabbat, on allume les bougies. Ça aussi, vous l'avez certainement vu, soit en vrai, soit dans des films, parce que c'est des scènes qu'on voit souvent dans des films, c'est-à-dire la scène qu'introduit, sauf erreur de ma part, la liste de Schindler, ça commence comme ça, par l'allumage des bougies de Shabbat. Et donc, là aussi, les gens se trompent sur les bougies de Shabbat, je ne sais pas ce que vous savez ou pas, mais les bougies de Shabbat sont des lumières qui sont faites pour des raisons pratiques. En fait, c'est une, ça démarre d'une discussion entre les courants du judaïsme à l'époque du Deuxième Temple pour savoir si on a le droit de laisser du feu chez soi ou pas pendant Shabbat. Normalement, ça tout le monde est d'accord là-dessus, dans le judaïsme, on n'allume pas de feu pendant Shabbat. On allume, c'est marqué dans la Bible, clairement. Hein, vous ne ferez pas brûler de feu dans vos maisons. Donc le Shabbat, on n'allume pas de feu. Et ça, c'est très clair, personne ne le discute. Là où il y a une discussion, c'est de savoir est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait de feu allumé ou on n'a pas le droit de l'allumer. Tout le monde est d'accord sur le fait de ne pas l'allumer. Mais s'il y a du feu déjà allumé, est-ce qu'on peut le laisser? Alors, c'est toute une discussion que je vous passe, évidemment. Mais le principe, la conclusion de cette discussion, et c'est comme ça que le judaïsme fonctionne, le judaïsme rabbinique, c'est qu'on n'a pas à faire chômer. Soi-même, on chôme. Donc, en chômant, on n'allume pas de feu. Mais on n'a pas à faire chômer ces objets. C'est-à-dire qu'une action qu'un objet ferait tout seul peut très bien continuer Shabbat, ça ne me regarde pas. Ce qui vous explique, et ce n'est pas d'hypocrisie contrairement à ce que certains disent, qu'on puisse mettre des trucs sur le minuterie, des choses comme ça. Parce que je ne fais rien. Et là, à l'origine, il n'y avait pas de minuterie, bien sûr. Il y avait donc des lampes qu'on allumait avant l'entrée du Shabbat, de façon à avoir de la lumière chez soi la soirée. Vendredi soir, Shabbat commençant avec la tombée de la nuit, ça je crois que tout le monde le sait ici. Et donc, c'est fait pour donner de la joie. Parce qu'on parlait de joie, voilà. C'est fait parce que le Shabbat est considéré comme un moment joyeux et pas triste. Que si on était dans le noir, la pénombre, avec une vague lumière de lune à travers une vague fenêtre, voilà, ce serait vraiment sinistre. Et ces lumières de Shabbat, elles sont faites pour éclairer la maison. Donc c'est une fonction tout à fait pratique. C'est pas du tout, là, pas du tout des cierges, c'est pas du tout un truc qui est fait sacralisé. Et les rabbins, qui sont quelquefois des emmerdeurs, bien justement pour casser les pieds à leurs adversaires, autres rabbins d'autres écoles, ont fait, et bon, on va même faire une bénédiction pour allumer les bougies de Shabbat. Vous voyez, on va bien marquer le coup. Il faut avoir des bougies à Shabbat chez soi, c'est-à-dire des lampes. Et donc les bougies de Shabbat, c'est pas du tout faut pas y toucher au sens sacré, etc. C'est pas du tout ça. C'est à l'origine des lampes, de nos jours c'est des bougies, qu'on allume pour éclairer la maison. Et c'est la fonction. Maintenant, c'est ce qui marque le moment de l'entrée du Shabbat dans la maison. Maintenant, si vous allez à Davar, par exemple, et qu'il y a suffisamment de juifs pour allumer les bougies, mais je crois qu'il y en a chaque année, en tout cas,
c'est juste. Fait.
Si vous allez dans un hôtel en Israël, au cours d'un voyage en Israël, vous verrez, à l'entrée du Shabbat, en général, il y a une table où on met plein de bougies, les gens viennent et allumer leurs bougies de Shabbat. Mais ça devient un objet purement symbolique. Parce qu'il ne sert plus à éclairer, parce qu'il y a l'électricité, etc. Mais si vous voulez, ce n'est pas son sens au départ. Alors, parlons de la synagogue, puisqu'on a parlé des sièges, etc. À la synagogue, il n'est pas question d'allumer une bougie pour des raisons de piété, etc. Ça ne marche pas du tout comme ça. Par contre, il y a une obligation de lumière. Ça, c'est très intéressant. L'architecture de la synagogue, vous avez un petit bouquin là, qui a l'air très intéressant sur l'architecture des lieux de culte. L'architecture de la synagogue est fondée sur deux impératifs. Un impératif acoustique, c'est-à-dire d'entendre quand on parle, puisque l'acte principal, c'est la lecture de la Torah et il faut que les gens entendent clairement. Ça exclut des architectures avec une mauvaise acoustique comme le sont certaines synagogues trop grandes ou des voûtes, des choses comme ça. Donc une synagogue normalement ne doit pas être très grande, à l'origine en tout cas. Et la deuxième impératif, c'est la lumière. C'est donc d'avoir des fenêtres suffisamment éclairantes, d'où l'exclusion de vitraux. Une synagogue n'a pas de vitraux normalement. Il y a des synagogues qui ont mis des vitraux pour faire joli, mais c'est nouveau. Si vous voulez, à l'origine, il faut qu'il y ait de la lumière pour éclairer le texte, que les gens puissent voir. Donc la dynamique n'est pas du tout la même que dans une église, en tout cas dans les églises telles qu'elles sont aujourd'hui, depuis déjà quelques siècles. Et donc, parce que l'impératif n'est pas le même. Et donc la fonction de la lumière est à la fois identique et à la fois différente. On a évoqué la lumière des morts. Alors il y a une coutume en judaïsme aussi, qui est d'allumer une bougie à la tête du mort et à ses pieds. Mais en fait, à mon avis, à l'origine, c'était pour entre autres pour éloigner les rats. Ah oui, c'est très pratique. Vous savez, la plupart des choses partent d'un quelque chose de très pratique. Hein. C'est une des raisons, poser le mort par terre, pour des raisons pratiques aussi, que le sol soit frais. Et on l'enterrait de toute façon très vite. Donc les veillées, ça durait très très vite. Je pense que c'était pareil dans le christianisme. Et c'est logique. Et donc, je pense que c'est une des raisons. Maintenant qu'il y a un symbole de l'âme dans la flamme, ça c'est vrai. Et c'est basé sur un texte biblique. Il y a Nishmat Adam, Ner Hashem Nishmat Adam. C'est dans le proverbe. L'âme de l'homme est la lumière de Dieu. Mais c'est, si vous voulez, donc la bougie ou une flamme, une flamme de lampe à huile, va symboliser l'âme du défunt. Mais par exemple, vous voyez, c'est intéressant aussi ça. De nos jours, on est dans un monde qui change énormément. C'est très rare de nos jours qu'on fasse des vraies veillées comme on en faisait avant. On veillait complètement les morts sans arrêt, si on ne le lâchait pas. Et on faisait des psaumes de façon permanente. Moi, j'ai fait ça, veiller vraiment toute la nuit. Oh là là, pour la mère d'un copain. Je m'endormais, elle disait, il ne faut pas dormir. Oh là là, je prenais mes psaumes, c'était très dur. Mais ça se fait quasiment plus de nos jours, beaucoup moins qu'avant. Et les gens meurent à l'hôpital, les conditions ne sont plus les mêmes. Et puis si on commençait à allumer des lumières dans une salle d'hôpital, ça va déclencher le truc anti-incendie, on voulait vous faire engueuler. Enfin bon, tout ça ne marche plus tout à fait de la même manière. Maintenant, il y a une autre lumière dont il faut dire un mot, puis j'arrêterai là, c'est la lumière de Havdalah, qui est la lumière qu'on allume à la sortie du Shabbat. Puisque le Shabbat, on a marqué l'entrée du Shabbat avec des bougies de Shabbat, dont j'ai déjà parlé. Et bien, à la sortie du Shabbat, on allume une espèce de petite torche qui rappelle en fait la lumière de la création. Puisque la sortie de Shabbat, c'est le samedi soir, mais c'est le premier jour de la semaine. Alors les gens ne comprennent pas ça, parce que dans le calendrier, en France, la semaine se termine le dimanche soir et commence le lundi, sauf que, puisqu'on évoquait l'Allemagne, ça ne marche pas, parce que le mercredi s'appelle Mittwoch, et pour être Mittwoch, il faut forcément que la semaine finisse samedi soir, sinon ça ne marchera pas, faites le compte. Et donc, la semaine, elle se termine le samedi soir. Et si vous êtes en Israël, le dimanche matin, tout est ouvert. Hein. Et donc, on marque le coup par la lumière du premier jour de la création. Et maintenant, je dois dire un mot sur Hanouka aussi, pour ajouter. Donc la lumière de Hanouka, qui est la fête des lumières, hein, c'est son nom. Hanouka s'appelle Chag Haourim, la fête des lumières. Ça consiste à avoir dans chaque maison, c'est pas une fête synagogale, hein, c'est une fête familiale, même si quelquefois la synagogue fait une petite soirée, bon, mais chaque individu, chaque maison se doit d'allumer pendant 8 jours, une lampe supplémentaire dans la Hanoukia. À l'origine, c'était juste allumer chaque jour une petite lampe qu'on met vers l'extérieur. Mais peut-être je développerai après Hanouka, parce que c'est plus de l'ordre du symbole là, et que de la raison, que la question pratique. Mais la fête de Hanouka qui arrive bientôt, qui cette année tombe en même temps que Noël, de ma part, c'est à peu près les mêmes jours, c'est lié à la notion de lumière, mais il faut expliquer pourquoi, et ça c'est déjà une autre chose, peut-être on passe à la deuxième partie. On ne va pas avoir oublié...
Vous êtes partant ? Alors, être lumière pour les autres, donc c'est qu'est-ce que ces pratiques peuvent avoir comme sens éthique, spirituel, religieux, humaniste, comme vous voulez. Donc, je suis reparti de textes bibliques et évangéliques, sachant que les uns et les autres sont juifs. Le christianisme du 1er siècle et plus encore le christianisme de la première partie du 1er siècle, c'est-à-dire celui de Jésus, c'est un christianisme hérétique si on veut, et encore faudrait le montrer par rapport à la liberté de créativité intellectuelle du judaïsme de l'époque qui était hérétique et qui ne l'était pas dans les années 40 et 50 de l'ère commune. Mais donc là, on est dans l'ordre de l'éthique et le discours est un. Donc, être lumière pour les autres, ça veut dire prendre sa lumière quelque part. Si je reprends la métaphore de la lampe ou de la bougie, il faut qu'elle reçoive la lumière. Il faut recevoir l'étincelle. Et le mystère du feu chez les premiers humains, c'est de le recevoir d'abord. Et même quand on apprend à le produire, par échauffement, parce que vous voulez... C'est voilà, l'apparition du feu dans nos vies ne peut pas être détachée d'un don d'en haut, même si l'intelligence de l'homme y concourt, parce qu'il faut trouver la bonne huile, il faut trouver la bonne taille de la lampe, il faut trouver la bonne arrivée d'oxygène, tout ce que vous voulez, enfin d'air en tout cas, il faut trouver la bonne chaleur du bâton, le bon geste des mains, tout ce que vous voulez, mais c'est une découverte qui tombe un jour, comme l'éclair qui tombe et qui peut être une des sources du feu. Enfin, voilà. Et donc, ta parole à la lampe ne met pas la lumière de ma route. Cette phrase, elle a forcément une dimension matérielle, mais aussitôt une dimension spirituelle, une dimension éthique. Si le feu est toujours un miracle, une fabrication de nous et de l'univers ensemble, quelque chose de plus grand que nous, et d'ailleurs qui est dangereux, le feu, très dangereux, ça brûle, ça détruit, ça devient une arme très vite, les armes à feu, les moteurs à explosion. Donc il y a tout de suite une dimension éthique, c'est-à-dire qu'est-ce que j'en fais de ça? Et est-ce qu'il y en a une en moi? Et qu'est-ce qui s'éteint quand la vie s'éteint? Qu'est-ce qui est soufflé dans la dernière expiration? On va même appeler expirer. Pour moi et pour d'autres, il y a un deuxième sens spirituel qui est non plus l'origine du fait que qui dit lumière dit source, première de toutes le soleil pour nous, la lune secondairement, les étoiles bien sûr. Mais la terre n'est pas lumière. Il a fallu monter dans le... avec Gagarine là-haut, pour voir que la Terre était lumineuse, par reflet, la planète bleue. Voilà. Et donc, mais aussitôt, donc, qui dit lumière dit, attention, tu touches à quelque chose qui ne vient pas de toi, mais que tu reçois en y collaborant. Mais il y a aussi l'idée que ça se voit, ça rayonne ailleurs que chez toi. Si j'allume une lumière, tous ceux qui sont dans la pièce la voient. Il y a un petit verset de l'Évangile, il dit ça, Jésus. Il dit, mais quand on allume une lampe, tous ceux qui sont dans la maison la voient. C'est tout de suite au partagé. Et c'est pas parce qu'il y a d'autres yeux qu'il y a moins de lumière pour eux que pour toi. S'il y a un kouglof et qu'on est 40, ça va être dur. Mais s'il y a une lumière et qu'on est 40, il y a plus de joie encore. Donc ça a été médité par les néoplatoniciens disant que la lumière fait partie de ces choses qui ne se partagent pas quand on y participe. La tarte, elle se partage quand on y participe tous. La lumière, et donc elle est symbole des choses immatérielles, et donc, ultimement, si on veut, même du Créateur. Dieu est lumière. C'est une chose qui est, dans les métaphysiques, il y a souvent Dieu océan, c'est-à-dire immense, l'océan de l'être, disaient les néoplatoniciens qui ont influencé nos deux traditions religieuses. Dieu océan de l'être, sans fin. Mais aussi lumière. Et donc, pour ce qui est d'une lumière qui rayonne, forcément, dans la Bible, et les chrétiens l'ont lu dans la Bible juive, comme les juifs l'ont écrit dans la Bible juive, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever Israël, je fais de toi la lumière des autres, des nations. Il y a une diffusion, comme le bien se diffuse, la lumière diffuse et elle est vue, elle est aperçue, de loin même peut-être, dans l'obscurité où elle peut être cachée. Il faut peut-être rassembler les morceaux pour qu'on la voie, que sais-je. Peut-être qu'on ne la voit qu'à travers un miroir déformé. Peut-être qu'on la voit là, mais qu'elle vient de là, et qu'à cause du miroir, on ne cherche pas dans la bonne direction. Voilà. Mais bon, pensez à... C'était à l'époque de Jimmy Carter. On a envoyé une sonde dans l'espace. On ne savait pas jusqu'où elle irait. Et on a mis dedans... voilà. L'idée de rayonner, c'est quand même une idée assez humaine. Nous sommes l'espèce qui a colonisé le monde. Maintenant, on essaye d'empêcher les moustiques, je ne sais pas d'où, d'aller partout. Mais nous, on a bien fait ça. On est une espèce invasive. Il n'y a pas de limite à notre... Ça donne dans la bouche de Jésus, tout à fait imbibé de ça, que votre lumière brille devant les hommes. Ta parole est la lumière de mes pas, bah, que votre lumière brille. Donc, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'écouter la parole à la synagogue, à la yeshiva, pour qu'elle brille en dehors. Et ça, c'est ta vie. Parce que tu ne vas pas te mettre... Il ne demande pas qu'on lise la Torah partout dans les rues. Mais il demande que tu deviennes un reflet. Que dans ton comportement réglé sur la parole de Dieu, sur ses préceptes, sur son espérance, sur son amour, ça éclaire. Bien sûr que la lumière peut venir de la Torah, comme la lumière vient toujours d'autre chose que de nous. Mais elle peut être reflétée sur un visage. Nos visages peuvent refléter quelque chose de la lumière de la Torah. Pas seulement nos visages, nos mains, nos pieds, nos actes. Comme la lune est éclairée par le soleil et reflète. C'est pas nous la lumière. Et pourtant, Jésus va dire... Que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Voilà un beau petit proverbe juif. Et puis il ajoute, plus précis, qu'est-ce qui est lumière en nous ? La lumière, c'est la capacité d'éclairer, donc. C'est-à-dire de montrer un chemin. Là, au fond, c'est la conscience qui est indiquée par là. Ce qui est en nous, source de lumière, c'est-à-dire de nous indiquer un chemin, notre aide ultime, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la conscience, c'est que lui appelle l'œil. Je vous donne ce petit santon. Si ton œil est mauvais, ton corps tout entier est dans la ténèbre, ton corps, c'est à ta personne, on est vraiment dans une anthropologie juive. Œil, corps, pour désigner conscience, personne, si vous voulez. C'est pas des concepts, c'est des réalités. Si donc la lumière qui est en toi, ton œil, l'œil de ton cœur, si la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre ? Donc oui, nous avons une petite lumière pour nous guider, mais on peut la pervertir. Donc c'est ça, le qui dit lumière dit, est-ce que tu es sûr d'être encore un être dans la lumière ? Là, c'est l'appel à... Métanoïa en grec, le renversement de l'esprit, la teshuva en hébreu, de partir dans l'autre direction que celle qu'on avait suivie, parce qu'en fait on regardait, mais c'était un reflet de la lumière, on allait dans la mauvaise direction, quoi. Je m'étais laissé attirer. Augustin, il chante ça, Saint Augustin, il chante ça. Je t'ai cherché partout, ô beauté, et en fait, je te cherchais mal, donc je m'éloignais de toi, mais toi tu t'éloignais pas de moi, parce que tu es la source. Alors, à la deuxième génération chrétienne, je prends Paul, Luc, qui ont fondé cette, cet enseignement moral, ce deuxième sens qui n'est plus le sens littéral, mais le sens, pas encore le sens d'une recherche, mais le sens d'une application personnelle, si on veut. La lettre aux Romains, Paul, il dit, bon, ok, Dieu t'a dit que tu étais la lumière, mais si tu ne pratiques pas la Torah, que tu... Si tu ne pratiques pas la lumière que tu as reçue. Avant de dire, oui, je suis lumière pour les autres, il faut se dire, ben, est-ce que c'est vrai, quoi? Et est-ce que je fais ce qui me rend en état de recevoir cette lumière de Dieu, cette lumière du texte, la passer par ma conscience pour l'actualiser, la vérifier, par la lumière de la communauté pour entendre ensemble et rester dans une lecture commune des textes. Mais après, si je ne fais pas, j'ai empêché cette lumière de briller. Éducateur, voilà. Je lis ce texte de Paul. Toi qui es convaincu d'être toi-même le guide des aveugles, lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, éducateur des insensés, maître des tout-petits, toi qui es convaincu de posséder dans la loi l'expression même de la connaissance et de la vérité. Bref, tu instruis les autres, tu ne t'instruis pas toi-même. On peut l'entendre comme une polémique entre juifs et chrétiens, mais pourquoi faire? On peut l'entendre tout simplement comme une parole de bon sens d'un rabbin ou d'un curé. Tu instruis les autres, tu ne t'instruis pas toi-même. Et chez Saint Luc, ça donne, qui est un disciple de Paul, le troisième évangéliste, ça donne ben, la paille et la poutre. Tu vas retirer de l'œil de l'autre, c'est-à-dire de sa lumière, de sa conscience, tu veux retirer une paille, alors tu as une poutre dans ton œil. Retire d'abord la poutre dans ton œil. C'est vrai que si tu as une paille de très très près, ça fait, c'est gros comme une poutre. Un aveugle peut-il guider un aveugle? Voilà, c'est cette idée. Donc, il faut se laisser éclairer pour voir. Bon, Isaïe dit ça sans arrêt. Il rendra la vue aux aveugles et l'évangéliste qui cherche à faire entendre le texte, il joue ça dans des gestes de puissance. Jésus fait voir des aveugles entendre des sourds. Donc être lumière, c'est oui, ok, être lumière pour, mais il faut bien se rendre compte qu'il y a une condition, c'est de la recevoir et de la mettre en pratique. C'est tellement vrai qu'en fait, on ne peut pas être lumière seulement pour, il faut être lumière avec, y compris avec ceux qui ne partagent pas notre source de lumière. Ça, je tire ça d'un dialogue incroyable, éblouissant, entre deux théologiens grecs orthodoxes, un d'origine française, il s'appelait Olivier Clément, venu de l'athéisme et ayant trouvé son chemin vers Dieu dans l'orthodoxie grecque, et il était interviewé un patriarche à Constantinople qui s'appelait Athénagoras. Et à un moment, il l'interroge sur le christianisme à l'époque des Lumières, 18e siècle, Voltaire, Diderot, etc. On pourrait dire le racidisme, mais bon, c'est pas leur sujet. Comme Lustiger qui a dit que les saints du 18e siècle, ce sont les racines. C'est quand même, fallait oser. Dans sa position de cardinal archevêque. Et donc il dit, mais Voltaire, comment ça se fait que c'est Voltaire qui dit dans l'Europe, respect de la liberté de conscience, respect de la liberté de religion? Et il dit, bah, quelquefois quand Dieu veut faire entendre quelque chose aux chrétiens, on parle de ça dans le texte, mais on pourrait dire aux juifs aussi, dans certains cas, eh bien, il est obligé de le dire de l'extérieur, parce que les oreilles se sont bouchées. Donc ne jamais négliger la lumière qui vient de ceux qui n'ont pas ces textes dont je me suis nourri pour dire pourquoi, de fait, la lumière peut être une invitation forte à une éthique de la transformation.
C'est bon, oui, c'est bien. Alors, bon, maintenant la question de qu'est-ce que représente la lumière. Alors, moi, je vais partir du texte que vous connaissez, qui est le texte de la Genèse, Parce que tout le monde sait ce verset qui dit que la lumière soit, la lumière fut. Il dit or. Alors c'est intéressant cette lumière parce que le problème c'est de savoir si c'est de la lumière ou pas. C'est ça le problème. En quoi ça consiste? Alors c'est pas très clair parce que dans ce récit, la lumière au sens physique existe, semble-t-il, après. Bon, c'est une question très compliquée, je ne vais pas entrer là-dedans trop, on n'a pas le temps. Puis c'est des textes très compliqués, ce texte de la Genèse. Mais les rabbins considèrent que, justement, cette lumière du premier jour, vous voyez, qui n'est pas un jour, ensuite ils disent quelque chose d'encore plus fort, ils disent qu'il n'y a pas de jour de toute façon, parce que tout aurait été fait en un instant. Donc c'est un peu plus compliqué que tout ça, que ça n'en a l'air. Mais le fait est qu'elle vient par rapport à l'obscurité. Or l'obscurité est aussi une création. Un commentaire classique qui dit que le rocher, l'obscurité, c'est une création déjà. Et donc ça a été créé avant la lumière, si je suis la chronologie. Alors ça m'amène à citer puisqu'on a évoqué Isaïe, un verset d'Isaïe qui ne plaît pas toujours beaucoup aux gens, qui dit que Dieu a créé la lumière, Yotzer Or Vore Rocher, il crée la lumière, il crée l'obscurité. Ose Shalom, il fait la paix, ou Boré Ra, et crée le mal. Les gens n'aiment pas trop ce verset, mais ils disent ce qu'il dit. Et donc, Ami Hachem, Ose Kolele, je suis à l'Éternel, qui fait tout ça.
Oui.
Isaïe.
Oui, Isaïe, mais.
Ah, c'est long un peu, Isaïe, c'est 45. 45. 45, 7, exactement.
C'est le numéro de téléphone.
Et donc, et alors ça, c'est évoqué toujours dans la prière juive, parce qu'on cite ce verset dans la prière juive. Sauf qu'on a remplacé le mot ra un peu trop violent, mal, par tout, il crée tout. Voilà, ça passe mieux. Mais la question, justement, est une question très intéressante. C'est qu'est-ce que... Je jette ça comme ça, on n'a pas le temps de développer, ça mériterait plus, bien sûr, mais... Et vous avez un rocher, une obscurité de départ, puis arrive la lumière. Qu'est-ce que c'est que la nature de cette lumière? Et les rabbins, alors là, il y a pléthore de textes autour de ça. Et c'est là où arrive la notion que j'ai évoquée tout à l'heure de Or Ganous, de lumière cachée. C'est-à-dire que c'est une luminosité qui est une luminosité qui n'est pas très claire. Mais elle serait les deux, elle serait à la fois une luminosité de l'ordre du physique que de l'ordre du spirituel. Et ça dépend des commentaires, hein, mais elle serait cachée. Et là, on arrive à une notion de Organus. Organus qui est une notion dans la mystique juive, dans la Kabbale, très importante. C'est-à-dire qu'il y aurait une lumière intrinsèque au monde, mais cette lumière, on ne la voit pas. Sachant que dans le récit de la création, ce que nous appelons la lumière, c'est-à-dire le soleil, et les étoiles, c'était OK. Mais enfin, pour nous, la vraie lumière, c'est le soleil. Hein. Les étoiles, c'est loin. C'est créé le quatrième jour dans le récit. Donc avant, il n'y a pas de lumière de cet ordre-là, en tout cas. Et c'est fait pour éclairer, voilà, le monde tel qu'il est. L'autre lumière, ce qu'on va ajouter, qui est le feu, puisque c'était évoqué tout à l'heure, ça va être créé à la sortie du Shabbat, d'après certains commentaires. Enfin, ça, je ne rentre pas dans le détail de la chronologie, ce n'est pas très intéressant, mais c'est l'homme qui fait le feu. Enfin, Enfin, le feu, c'est-à-dire le feu existe dans la nature. Mais c'est l'homme, c'est le propre de l'homme de dompter le feu, d'être capable de le fabriquer et de jouer avec. D'où la notion des bougies, etc., qu'on a évoqué, des lampes qu'on a évoquées tout à l'heure, avec leurs diverses fonctions. Et là, c'est là, donc, la notion de lumière, d'être lumineux au sens pour les autres, de lumière des nations, or la goyim, qui est une expression d'Isaïe, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est évident que c'est une question symbolique. C'est la lumière au sens d'éclairer les autres, ce qui a déjà été évoqué. Donc, je ne vais pas redire les mêmes choses. Et que ça va de soi que c'est la notion de donner aux autres ce qu'on a réussi à creuser, à percevoir du monde, l'écriture. La Torah elle-même est comparée à la lumière, Torah d'or, Torah de lumière. Vous avez tout un tas de versets, de citations comme ça, je ne vais pas sortir toutes ces citations, ce n'est pas nécessaire, mais... C'est omniprésent en fait. Il y a cette idée qui est à la fois métaphorique, mais aussi plus concret, si vous voulez, au sens, alors pas forcément physique bien sûr, mais au sens de l'enseignement concret, parce que, comme on le dit en langue courante, ça m'éclaire, ce que vous dites m'éclaire, pareil, c'est à la fois quelque chose qui doit être éclairant, mais au sens pratique. Au sens de savoir quoi faire, qui est éclairant à un niveau plus profond, qui est plus spirituel, si vous voulez, qui est moins utile au sens de l'utilité pratique. Et le or à Ganous, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le fait d'aller chercher une luminosité qu'on ne voit pas. Alors, là, ça amène à dire un mot sur l'étude dans le judaïsme, parce que dans le judaïsme, les textes ne sont pas si lumineux que ça. Très souvent, le texte est obscur dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que pas très compréhensible, on ne voit pas trop. Alors, pourquoi vous aimez tellement étudier des trucs pareils? C'est vrai que c'est souvent abscon, voire peut-être choquant. Parce que des récits, vous prenez des textes bibliques, il y a des choses... qui plaisent pas aux gens, voilà, bah, j'ai cité Isaïe tout à l'heure, là, par exemple, ce verset ne plaît pas, a priori, mais on peut citer d'autres textes. Or, le principe, c'est que ces textes sont là pour éclairer. Alors, ça pose la question de la luminosité d'un texte, ouais, qu'est-ce que ça veut dire éclairer? Et là, bon, je ne veux pas être trop long, mais... arrive la notion d'étude dans le judaïsme. Et la notion d'étude, c'est une notion de casser, vous voyez, casser la coquille, de faire extraire justement de la gangue la luminosité du texte, mais qui n'est pas visible a priori. Alors là, quand on étudie des textes rabbiniques, quelquefois un peu abscons, mais on voit bien qu'il y a une espèce de volonté de triturer le texte. C'est vraiment une espèce de cuisine, de étable, vous voyez, de faire. Si je prends la métaphore de la cuisine, il faut faire cuire ça longtemps, vous voyez, et de façon à faire ressortir la chose, le goût ou la lumière qui est enfouie dedans. Maintenant, c'est aussi une métaphore de la luminosité de l'être humain, de la capacité de lumière de l'être humain. Alors évidemment, ce n'est pas donné à tous les êtres humains. Il y a des êtres humains qui sont peu lumineux. Pas besoin d'en citer, on en connaît beaucoup. Il y en a un qui vient de prendre l'avion pour Moscou, semble-t-il. Mais le fait est que tous les humains ne sont pas... Pourtant, en étant ophtalmo, j'aurais dû réfléchir à la question de la luminosité, mais vous voyez, donc, le fait est qu'on ne peut pas éclairer si facilement. Et que là, dans la mystique juive, l'être humain est justement capable d'obscurité. Il y a l'aspect caché de l'être humain qui est obscur, il y a la face obscure de l'être humain, il y a la face lumineuse. Et chacun d'entre nous a ça. à nous de justement de savoir s'occuper de mettre en avant la face lumineuse et pas la face obscure. Et ça, c'est un principe de base dans la Kabbale. Alors, j'en arrive à la notion, justement, de à quoi sert la lumière. Parce qu'il y a la lumière spirituelle, et je vais revenir aux bougies de Shabbat.
Alors, pour revenir sur l'arbre, parce que le temps passe, il faudrait avoir 3 minutes, après 3 minutes, monsieur.
Ah, d'accord, okay, après, d'accord. Okay. Je vais dire sur Hanouka.
Je lui donne mes 3 minutes.
Non. Juste sur les lumières.
Je lui prête avec intérêt.
Juste sur les lumières de Shabbat. Pourquoi c'est important d'être dans la lumière? Parce que alors, les rabbins disent que c'est pas la même chose. D'abord, on mange, de manger quelque chose qu'on voit et quelque chose qu'on ne voit pas. Alors, je ne sais pas si c'est totalement vrai ou pas, mais l'aspect compte. Ensuite, on mange ensemble et on doit voir le visage de l'autre. Ça, c'est tout à fait lévinassien. Et donc, c'est un rapport, si vous voulez. La lumière fait partie du rapport érotique au monde. Or, ça, c'est pour la lumière de Shabbat. Pour Hanouka, c'est tout autre chose. Puisqu'on a l'approche de Hanouka, il faut quand même dire 3 mots là-dessus. Hanouka, au départ, c'est une fête qui est basée sur le récit que vous connaissez peut-être un petit peu, qui est dans le livre des Maccabim, où les Grecs, ayant mis en place pour une raison politique, on ne va pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps, une véritable persécution contre la pratique du judaïsme, les Juifs se sont révoltés et ont eu une victoire. Une fois qu'ils ont cette victoire, ils inaugurent à nouveau le temple que les Grecs avaient profané. On est en -167, -164 avant l'ère chrétienne. Or, à ce moment-là, les Juifs accèdent, en ayant une victoire contre l'Empire grec, accèdent à l'indépendance. Et en fait, au départ, c'est une fête nationale, Hanouka. Et on fête l'inauguration, c'est ça que ça veut dire, Hanouka, ça veut dire inauguration. On fête l'inauguration du temple, réinauguré, si vous voulez, une fois qu'on est indépendant, qu'on a viré les Grecs. Donc c'est basé sur une victoire militaire et sur un accès à l'indépendance et de s'être débarrassé d'oppresseurs. Donc c'est un sens tout à fait politique comme fête. Curieusement, c'est une fête qui a pris une toute autre tournure parce que les rabbins, se méfiant du politique, pour des raisons d'avoir payé un prix fort aux politiques au moment des grandes révoltes contre les Romains, ils veulent essayer d'étouffer, si vous voulez, un petit peu les velléités de révolte possible, parce que prenant conscience qu'on n'en a pas la possibilité politique et que c'est des aventures dans lesquelles il vaudrait mieux ne pas trop rentrer, transforment la fête de Hanouka en fête de la lumière, stricto sensu, en étouffant l'aspect politique. Sauf que, là où ça se complique, c'est quand même, dès le départ, une fête de la lumière, parce que une des choses qu'avaient fait les Grecs, et notamment Antiochus, c'est d'obliger les Juifs à fêter la fête de la lumière pour eux, qui était le 25 du mois chez les Grecs. Maintenant, il y a une question de calendrier entre le calendrier grec et le calendrier juif, qui était le solstice d'hiver et qui était la résurrection du soleil. Cette fête dans le monde gréco-romain était fondamentale parce que le soleil, c'était l'empereur. Donc c'est une résurrection du pouvoir politique de l'empereur qui est l'équivalent du soleil. Et comme si le soleil mourait en hiver et renaissait à ce moment-là, au moment du solstice, à ce moment-là, en fêtant la résurrection du soleil, si vous voulez, on fête la résurrection du pouvoir politique. Donc on avait obligé les Juifs à faire ça. Les Juifs, une fois qu'ils ont le pouvoir politique, qu'ils sont débarrassés des Grecs, disent, bah tiens, votre fête que vous avez obligé à fêter, ben on va la fêter nous, pour fêter en quelque sorte notre résurrection politique, et on va allumer des lumières comme vous faites. Mais c'est une espèce de renversement. Et ça, c'est la naissance de Hanouka. Donc, dès le départ, un jeu sur la lumière. Maintenant, dans le judaïsme rabbinique, ça devient que on enlève l'aspect politique, parce que les rabbins en veulent pas, et on garde l'aspect lumineux, sauf que c'est pas lumineux, parce que les rabbins le disent bien, ils veulent surtout pas qu'on se serve de cette lumière. Et c'est tout à fait l'inverse de celle de Shabbat. On doit mettre ces lumières vers l'extérieur, au bord de la fenêtre ou de la porte, et elle ne sert à rien en fait. C'est des lumières et on n'a pas le droit de s'en servir. C'est pour ça qu'il y a une autre lumière qui est plus haute au cas où, le shamash, qui, contrairement à ce que les gens croient, ne sert pas à allumer les autres, elle sert à éclairer au cas où je m'en servirai, par mes gardes. Vous voyez, je vais regarder un truc, hein, mon papier, puis ça éclaire et je me servirai de cette lumière. L'idée est très intéressante, parce que l'idée c'est que c'est de la lumière inutile. Elle est vers l'extérieur, elle n'est pas vers chez moi. Elle est orientée vers l'extérieur. Et ça reprend la notion, justement, de hors l'agoïm. De faire, essayer d'éclairer vers l'extérieur. Mais c'est très faible, ça n'éclaire rien. C'est pas par une hanoukia que je vais éclairer la rue. C'est ridicule. Mais c'est purement symbolique. Et ça, c'est intéressant. C'est l'idée, au cœur de l'hiver, de montrer qu'il y a une capacité d'extérioriser quelque chose, de relancer le cycle de la luminosité, qui va être le cycle des saisons également. Et ça, c'est la fête de Hanouka.
On va conclure avec
moi, j'ai plus rien à dire. Ce que je fais, c'est que j'avais mis quelques textes sur un papier. Honnêtement, je pense qu'on a déjà donné beaucoup, que ce serait mieux de passer aux questions.
Une
troisième partie.
Non.
Moi, ça me va très bien comme ça. Ça me va très bien comme ça. Donc, c'est toujours bien de laisser 15 secondes parce qu'il y a les esprits secondaires et les primaires. Et ce n'est pas toujours les primaires qu'il faut laisser parler en premier. On va 15 secondes pour que les secondaires et les primaires se rejoignent. Et alors, libre à vous de faire... Oui, mais on va lui laisser 15 secondes de silence avant de parler. Si vous êtes d'accord, je prends le pouvoir. Je vous le rends aussitôt. Et on peut même dire que s'il y en a qui veulent faire une conférence, c'est bien, mais il n'y aura plus beaucoup de questions, alors.
Je vais vous prévenir que...
Et on ne peut même pas vous retirer le micro si vous parlez sans arrêt. Allez, je compte jusqu'à 15 dans ma tête. Je suis à 5. Pour moi, les 15 secondes sont passées. Je laisse les responsables reprendre la guidance du débat.
Le père, il a parlé de la lumière pour la naissance, enfin le baptême, enfin la naissance à la vie chrétienne, finalement la naissance à l'Église. Et la deuxième occasion individuelle, finalement, lors du défunt, lors de la mort. Il y a quand même je n'ai pas pu m'empêcher de penser que c'était des rituels qui sont individualisés et non pas collectifs. Parce que l'usage de la lumière dans l'Église, c'est comme éminemment à Pâques, l'avenue Pascal. Donc, si vous voulez, vous avez évoqué les sacrements, la lumière lors de l'utilisation des sacrements, mais également lors de l'Eucharistie, puisque effectivement. Ce n'est pas peut-être pas l'Eucharistie. Le sommet de l'Eucharistie, c'est peut-être la consécration. En tout cas, la lecture de l'Évangile est également fait partie intégrante de l'Eucharistie, de la messe, du sacrement de l'Eucharistie. Mais il me semblait quand même que, à la nuit pascale, l'éclairage, le cierge pascal, tout ça, qui symbolise la résurrection et qui est collectif, non ?
C'est vrai. Il n'y a rien de plus collectif que le baptême, puisque c'est l'entrée dans une communauté. Et vous avez raison, le cierge pascal est la source à laquelle on va chercher la lumière pour le cierge du baptisé. Donc c'est un symbole de résurrection aussi.
Merci. Juste deux petites précisions, une pour vous et une pour vous. En Bible,
bien, je l'ai colporté évidemment autour de moi, que le mal existait avant la création.
Avant la...
Le mal était là avant même la création.
Avant la création.
On le dit, enfin, moi je le colporte en tout cas, je continue à le dire. Je le dis. Est-ce juste?
Donc c'est peut-être une question pour la prochaine fois, peut-être toute petite question. Là, en fait, il se trouve qu'à Davar, l'année dernière, on a fait une session sur cette question à cause de l'actualité après le 7 octobre et tout. Donc, le mal, son origine, la manière de lutter contre lui. Et si on lit de près le texte de la Genèse, juif et chrétien ensemble, le fait qu'il y a du mal dès l'origine, ou en tout cas de l'incomplétude avec laquelle Dieu fait avec, est une lecture possible. Mais que le mal existe avant la création, si on dit qu'avant la création il n'y a que Dieu, alors à part Schelling, Hegel, Fichte, qui ont essayé de penser du mal en Dieu, de cette manière-là, en tout cas dans la tradition chrétienne, je ne vois pas ça. Dieu est lumière, en lui point de ténèbres, c'est assez clair. Mais on peut faire des spéculations dans la mystique, dans les mystiques, dans la gnose, il y a beaucoup de ça. Que Dieu a besoin d'expulser le mal qui est en lui pour devenir bon. Tout ça peut se penser et vous avez le droit de le penser. Mais en tout cas, du côté de la théologie au sens strict chrétienne, vous ne trouverez pas du mal en Dieu. C'est avant la création, il y a, si le mot « avant » a du sens. Mais je ne sais pas ce que va répondre.
Vous avez une deuxième question.
c'est un petit détail. C'est au sujet de la lumière de Hanouka et du temple. Est-ce une légende de dire que lorsqu'ils ont retrouvé le temple après sa destruction, il y avait une petite lumière. C'est ça.
Alors. Bon, je réponds d'abord à la question du mal. Pour le judaïsme, comme pour le christianisme, il n'y a pas de mal avant. Mais de toute façon, moi je pense même sur le point de vue purement rationnel, le mal, c'est un manque de bien, comme l'obscurité est un manque de lumière. C'est-à-dire que le mal est... Et va de pair, me semble-t-il, hein, c'est des choses compliquées, mais va de pair avec l'existence. Avant l'existence, il n'y a pas de mal. Pourquoi il y aurait du mal avant? Ça n'a pas grand sens. Le mal, il n'est pas par définition. Si vous voyez, c'est lié à l'existence et à la vie. Sinon, je ne vois pas comment il y aurait du mal. Enfin, c'est une grande question, c'est pas une question simple. Mais c'est juste pour aller dans le même sens, c'est tout. Donc, quand Isaïe dit crée le mal, ou que l'obscurité est créée, c'est qu'avant, il n'y a même pas d'obscurité. Il y a quoi avant, on ne sait pas. Il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. La création, elle vient d'un truc. Et donc, donner des qualificatifs de bien, de mal, de lumineux, d'obscur, de tout ça, avant, ça n'a pas de sens. Bon. Et sur la question de Hanouka et de la fiole d'huile, il y a ce récit de la fiole. Ils ont trouvé une petite fiole qui aurait brûlé 8 jours, qui n'avait pas besoin, il y avait besoin. La fiole elle-même ne représentait qu'une quantité d'huile pour brûler 1 jour. Pour allumer la fameuse menorah. Ça, c'est un récit qui est dans le judaïsme, qui est un récit très connu. Et c'est justement le récit que racontent les rabbins. Quand je dis que les rabbins ont mis l'accent sur la lumière, c'est exactement cette histoire-là. Sauf qu'il y a quelque chose d'un peu surprenant, parce que leur truc ne tient pas la route. Ben, pour une raison très simple. Un, d'abord, ils inventent cette histoire. Enfin, ça, c'est normal. Mais deux, surtout, je ne vois pas pourquoi on ferait une fête de 8 jours pour une histoire de fiole qui a brûlé 8 jours. Dans le judaïsme, il n'y a pas de fête pour le miracle, si vous voulez. On s'en fout des miracles. Ça ne nous intéresse pas beaucoup. Et donc, il y a quelque chose de complètement absurde de dire qu'on fêterait un miracle parce qu'une fiole d'huile a brûlé 8 jours. Donc c'est évidemment un récit à prendre au niveau symbolique, ce qui est d'ailleurs normalement le sens des miracles. Et donc, l'idée qu'il y a plus, justement, ça rejoint la notion de lumière. Il y a plus de lumière que ce qu'il semble avoir de lumière. Ça rejoint ce que je disais sur la Hanouka, la fenêtre. Elle n'éclaire pas la rue, mais elle éclaire quand même. Elle donne quelque chose. Et comme nous-mêmes, nous dononsce que nous donnons, mais on éclaire, chacun.
Encore voilà. Une question, après on va conclure. C'est pas une question, mais c'était pour parler de Hanouka. Enfin, moi je le vois dans un sens symbolique, effectivement. Cette petite fiole d'huile que l'on a trouvée, est-ce que c'est pas la petite flamme de l'espérance que nous avons en nous? Parce que la destruction du temple, ça peut être la destruction de notre temple. C'est-à-dire, quand on a un grand drame qui nous arrive, on se sent complètement accablé, on ne sait pas si on va pouvoir continuer à vivre. Et c'est cette petite flamme qui nous porte. Chaque jour, on avance un petit peu. Alors, 8 jours, pourquoi c'est un cycle? C'est le deuil que l'on doit faire pour pouvoir se reconstruire et reconstruire le temps.
C'est une des interprétations possibles. Toute la question, là, c'est qu'est-ce que représentent ces récits pour l'individu? Qu'est-ce que j'en fais à un niveau existentialiste? C'est-à-dire, bien sûr, ça va dans le sens de ce que vous dites. Mais il y a un autre récit intéressant dans la Talmud sur la Hanouka qui dit que le premier à avoir fait Hanouka, c'est Adam Harishon, c'est le premier homme. Ah, pourquoi? Parce qu'il a été créé, d'après le calendrier juif, il a été créé au mois de septembre. Rosh Hashanah, c'est au mois de septembre, c'est l'anniversaire du monde, Rosh Hashanah. Donc il a été créé à l'automne. Et il est, comme vous le savez, expulsé du Gan Eden, hein, et on dit qu'il va mourir. D'accord? Alors il constate qu'il ne meurt pas. Donc il se pose la question, c'est une histoire talmudique. La question, je ne meurs pas, très bien, bon. Puis, il observe et puis il se rend compte que les jours commencent à diminuer, à diminuer, à diminuer, à diminuer. Il dit, maintenant je comprends, je vais mourir. Le monde va être plongé dans une nuit totale. Il n'y a plus d'y avoir de jour. Et c'est ça ma mort. Et il se met à prier. Et puis, là, il constate que ça s'arrête de diminuer. et ça commence à rallonger tout doucement. Et là, il a mis une Hanoukia, vous voyez. Et voilà. C'est un des récits du Talmud. Ouais. Donc ça marche dans votre sens, voilà.
En janvier, on est sur l'espérance. Alors, merci pour toutes vos étincelles de sagesse.
Ouais.
D'accord. Si le rabbin est d'accord.